Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, est pour moi un frère, une sœur, une mère. Faire la volonté de Dieu, mais quelle est-elle? N'est-elle pas celle de réaliser en fait notre vocation d'enfant de Dieu et de retrouver au plus profond de nous-mêmes ce lien filial avec lui? Et je reprends ce très court passage de Matthieu, car nous n'avons qu'un seul Père. Les trois paroles de l'Écriture que nous venons d'entendre maintenant nous tracent un chemin pour vivre cela. Je vous invite à le suivre comme un pèlerin, poussé par le désir de vivre cette filiation. Cherchez la volonté de Dieu, notre Père, pour façonner notre vie. Découvrir notre identité d'enfant de Dieu, co-héritier du Christ. Eh bien, ce chemin, je vous le propose en trois temps. Ce chemin a une origine. Ce chemin a des témoins et ce chemin a un ami. Tout d'abord, ce chemin nous est rappelé par ce passage de la Genèse, le chapitre 3, où Dieu, et je reprends les quelques mots d'André Vénin, un exégète bien connu, Dieu est en quête d'un humain qui se cache de lui. Hier, comme aujourd'hui. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Nous l'avons entendu à l'instant. Rappelez-vous, nous sommes juste après le détournement de la parole de Dieu par la figure du serpent. Ce dernier va falsifier la parole qui est une parole de don et de vie. Certes fondée sur un interdit, une limite, mais elle est nécessaire, car elle va garantir la liberté, notre liberté. Sans limite, il n'y a pas de liberté. Ce passage de la Genèse est essentiel pour comprendre notre condition humaine et notre condition d'enfant de Dieu. Essentiel aussi pour démonter et démontrer en même temps combien la puissance du mensonge risque toujours de nous écarter de la vérité de la parole. Essentiel aussi pour expliquer pourquoi, oui, pourquoi le vrai visage de Dieu, aujourd'hui comme hier encore, est brouillé, lui qui, dès l'origine, manifeste sa miséricorde. Ensuite, ce chemin nous est aussi révélé par des témoins de l'Évangile. Et ce sont les mots mêmes de Paul aux Corinthiens qui nous rejoignent pour nous renforcer d'une manière puissante dans notre foi et notre identité d'enfant de Dieu. Je le cite, « Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » Et je n'ai pas peur de le dire. C'est ce que je fais. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va à sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, les mots de Paul sont puissants. Ils sont pour notre réalité de maintenant, celle de notre monde, envahie par le doute, la peur du lendemain, les incertitudes de la guerre, la déroute de la raison, et je reprends ici le titre d'un titre de livre qui vient de sortir d'une personne que nous connaissons bien et qui alerte, oui, qui alerte avec d'autres sur notre incapacité aujourd'hui à débattre vraiment de questions existentielles et vitales. Nous sommes incapables c'est une déroute de la raison. Au cœur de ce qui pourrait nous déstabiliser, nous y percevons un appel profond à espérer et à l'espérance. C'est cela qui alimente notre courage. Et avec Paul, il est bien de se rappeler que ce mot que vous avez certainement entendu tout à l'heure, le mot « gloire » qui n'est peut-être pas tout à fait ajusté à la phrase, on se dit quand même « pourquoi met-il cette gloire ?» comme s'il détrônait, si je puis dire, notre réalité de tous les jours. Rappelons-nous, le mot « gloire » en hébreu, « kabot » présent dans cette phrase de Paul, « car notre détresse, je vous la relis, du moment présent » est légère, elle n'est pas légère, par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit en nous. Nous pourrions dire quand même, c'est un peu exagéré, eh bien non, car Paul nous dit cette gloire, ce n'est pas fugace, elle va exprimer la qualité de ce qui a du poids, de ce qui est consistant. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser au rocher, à la figure du Christ sur lequel nous nous fondons. Enfin, c'est le troisième temps, ce chemin a une origine et des témoins, je viens de l'évoquer, eh bien, il met sur notre route un ami, le Christ, l'expression même de la volonté du Père qu'il accomplit en s'offrant à nous. Comme chemin, comme vérité et comme vie. Dans ce passage de Marc, l'environnement de Jésus le croit déraisonnable, voire même totalement fou. Mais il passe sur ses accusations pour en prendre par contre une autre au sérieux, celle d'être possédé du démon. Marc, avec sa connaissance et sa finesse comme une parabole, nous parle d'un homme fort, Satan. Il le représente comme, et je le cite, une personne qui ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Ici, il faut comprendre que Jésus est plus puissant que Satan. Puisqu'il expulse les démons, il est donc vainqueur du mal. Très souvent, nous le rappelons, mais très souvent, nous nous disons, ce n'est pas possible puisque le mal est là. Eh bien oui, le mal est vaincu. Comment se persuader de cela aujourd'hui avec tout ce qui se passe? C'est notre foi, notre identité de chrétien profondément qui doit rejaillir pour dire oui, le mal est vaincu. Même s'il y a la guerre, même s'il y a des choses épouvantables, le mal est vaincu. Comment pourrions-nous dire, eh bien oui, tout cela n'est que du blabla. Non, fondamentalement. Et c'est la puissance de la foi chrétienne de se rappeler cela. Il est donc vainqueur du mal. Il est d'une certaine manière, eh oui, la réponse au passage du livre de la Genèse que nous avons entendu. Quoi que fasse Satan, Jésus enlève le mal du monde. Arrêtons-nous quelques instants. Un chemin, trois compagnons, si je puis dire. Est-ce que ce chemin, décliné comme nous venons de le faire, comprendre notre histoire sainte depuis l'origine, d'abord comme un acte d'amour et non une déchéance, comme très souvent nous le faisons, puiser dans l'expérience spirituelle d'hommes et de femmes vivants, tels saint Paul, vivant de l'esprit qui les habite, tels des témoins tout au long de cette longue histoire de l'humanité, et enfin, accueillir celui qui se donne à nous jusqu'à la fin des temps comme notre ami. Est-ce que tout cela nous aide à mieux décrypter, j'aime cette expression biblique, le doigt de Dieu dans notre vie ? Et comprendre sa volonté. Je conclurai en disant, avec les paroles de saint Jean, à sa manière, il nous donne une réponse. Et je le cite, « au chapitre 1, verset 12. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là est notre espérance qui fait vivre. Amen.